C'est aujourd'hui que sont lancés les ETN-ETF du côté de BNP Paribas pour la France sur Bitcoin et Ethereum. Et ils viennent donc compléter la très longue liste du côté de l'Europe, puisqu'il y a désormais pas moins de 12 prestataires qui le proposent. Notamment pour l'Espagne, la BBVA, on a ING pour le Netherlands, Deutsche Bank, Commerzbank AG pour le côté danois et allemand, KBC Bank et Verzekering du côté de la Belgique. On a également CaixaBank, OpenBank toujours du côté de l'Espagne, Exarch, groupe BPCE et Delubac, Boursorama et enfin BNP qui proposent tous à présent les fameux ETN qui sont quelque part un peu un dérivé. C'est certes un produit synthétique mais avec une réplication qui est plutôt fidèle et qu'on appelle donc ETP ou ETN. Donc une bonne nouvelle de plus pour ceux qui sont en zone européenne et qui se demandent comment ils peuvent s'exposer aux cryptos quand ils sont retournés ou restés du côté de la TradFi. Également, on a donc Coinbase au niveau du Clarity Act. Alors en ce moment, c'est un petit peu le conflit qui anime la sphère politique et la sphère institutionnelle, puisque on a pas mal de révélations qui ont eu lieu autour de Coinbase et notamment Brian Armstrong, le CEO, qui est en train un petit peu de bloquer les dernières négociations. Et ce, au moment même où le Clarity Act allait passer. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, puisqu'ils lui ont enlevé la ligne sur laquelle on pouvait avoir du rendement sur les stablecoins, et donc USDC, et donc Circle, et donc Coinbase, et ça coince énormément de ce côté-là. Et derrière, ça a déclenché des prises de parole un peu véhémentes, notamment pour Ripple, avec donc un de ses co-dirigeants qui a déclaré que Coinbase demandait des millions pour être listé, qu'il leur avait demandé jusqu'à 20% de partage de revenus overnight, etc. Donc voilà, c'est pas extraordinaire ce qui est en train de se passer juste au moment où on allait tout entériné, bien carré, bien comme il faut du côté des États-Unis par rapport à ce Clarity Act qui est énormément attendu pour définir les bordures quelque part de l'institutionnalisation du domaine pour les États-Unis mais aussi un peu pour le monde. Donc on espère bien entendu qu'ils vont trouver un compromis sur cette dernière ligne qui a l'air vraiment de les embêter, et notamment par rapport à Coinbase qui veut à tout prix pouvoir proposer du rendement à ses utilisateurs à hauteur de quelques pourcents par an sur leur stablecoin dormant. Mais c'est vrai que c'est très certainement aussi le lobby bancaire derrière qui est en train de s'activer, puisque imaginez un petit peu qu'on vienne vous proposer du 3, 4, 5, 6% sur vos stablecoins, donc sur du dollar tokenisé aux États-Unis, ça risque bien entendu de créer une fracture avec le système bancaire traditionnel qui propose bien trop peu par rapport à tout ça. Également, Willy Woo qui nous rappelait sur le BTC Price Model avec les deux indicateurs long terme et notamment le CVDD Floor du côté de Bitcoin, et on est à ce jour autour de 45 000 $, tandis que le prix réalisé, notamment pour les mineurs et ceux qui en détiennent au long terme, est autour de 54 000 $. Donc selon lui, et en faisant une statistique très simple, pour lui, le bottom de ce cycle en 2026 se trouvera quelque part entre 45 000 et 54 000 $. Donc aujourd'hui, on est autour de 66 000-67 000. Pour ceux qui ont prévu de DCA toute l'année 2026, vous faites vos petits calculs et temporaires et en termes de prix. Vous vous dites que déjà entre 60 et 70 c'est plutôt pas mal, et vous vous demandez comment vous vous comporterez si un jour on va quelque part entre 45 et 55, ce qui en l'état on voit que voilà, le bear market est avancé à un bon 70-80%, mais la dernière tirette, celle qui fera perdre d'un seul coup en quelques jours ou une semaine moins 30% de nouveau aux altcoins, et du côté de Bitcoin de nouveau une belle tirette qui nous conduirait de 65 000 à 45 voire 50, on va dire autour de la zone des 50 000 à plus ou moins 5 000 $. C'est aussi un dernier mouvement qui est un peu traumatisant, et c'est ce mouvement où on aura le plus de headlines du côté des réseaux sociaux qui vont dire que ça y est, le Bitcoin est mort, qu'on repart à 10 000, que tout est fini. Et en général, c'est là où effectivement on fait les meilleurs achats. Et en parlant d'achats, James Easton UK du côté de X nous partageait que les whales qui détiennent 1 000 à 10 000 Bitcoins sont en train d'accumuler de façon parabolique. Et il est vrai que comparativement à ce qu'on a pu observer ces dernières années, on a un vrai mouvement qui est en cours. Alors, est-ce que d'ores et déjà, les très gros portefeuilles institutionnels sont en train de se charger pour la suite? En tout cas, ça dénote avec ce qu'on a pu observer par le passé et même sur le cycle de 2024, où finalement, on avait eu un petit mouvement ici sur le début 2024 au moment de cette approbation des ETF, en même temps que ça avait bien poussé pour les altcoins. On avait un cycle qui, pour l'instant, se passait pas si mal jusqu'à ce premier trimestre 2024. 2024 avec une répétition en décembre 2024. Mais sinon, on voit que ça a pas mal déchargé et notamment les méga whales du côté des échangeurs autour de l'été, entre l'été et 2025, où celles qui détiennent plus de 10 000 bitcoins ont beaucoup, beaucoup déchargé. Et notamment, on voyait des portefeuilles long terme qui étaient là depuis quasiment la genèse de l'ère Satoshi Nakamoto, qui de temps en temps se réveillaient avec des 10 000, 20 000 bitcoins et qui vendaient, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, est-ce que derrière, il y a la peur de ce risque quantique de voir des adresses et des très vieilles adresses cassées, notamment par comme ça du brute force ou par un super combo IA calculateur quantique qui viendrait à mettre à mal les premières clés qui n'étaient pas si sécurisées que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, beaucoup de théories pour trop peu de faits par rapport à tout ça, mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a un pic à court terme qui est assez important. Du côté de l'analyse technique, on va aller très très vite puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose au cours du week-end. Tout ce que je vous invite à suivre cette semaine, et finalement, on le suivra ensemble, c'est le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité pour le S&P 500. S&P 500 qui devrait réouvrir aujourd'hui à 6400 sous la moyenne mobile 50, on a clôturé en dessous, donc on va très certainement retester cette zone des 6530 par le dessous, et derrière, si ça passe pas, eh bien on ira à la moyenne mobile 100 qui se trouve à 6100, et ensuite on a le 0.38.2 à 5600 points, et la moyenne mobile 200 qui est aujourd'hui proche des 5250 points. Pareil pour le S&P 500, on est à 50-70% de cette correction. C'est pas pour autant que si d'un seul coup ça panique, on peut descendre très vite et très bas, comme ça l'a fait sur chaque fin de grande correction de l'indice principal des États-Unis. Mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. Donc on va pas se dire qu'on va forcément vers un crack, mais on est sur une correction, on va dire, qui se passe toutes les une ou deux années, qui pour l'instant nous offre un bon moins 10% bien tassé. Est-ce qu'on va vers un moins 15, vers un moins 20, vers un crack moins 30? Voilà, c'est de ça dont il faut juger du côté du marché US et du côté des indices. Et bien heureux sera celui qui arrivera à déterminer tout ça avec précision. Le crypto total, 2300 milliards, on continue de cloisonner. Donc là aussi, le prochain mouvement sera très volatile, vous vous en doutez bien. Ça fait désormais deux mois qu'on oscille entre 2000 milliards et 2500 milliards. Ce qui correspond finalement du côté de Bitcoin entre 60 et 70, 75, sur lesquels on s'est fait repousser plusieurs fois. Toutes les moyennes mobiles sont au-dessus, sauf la 200 qui est en dessous. En support dynamique, 59 600, les oscillateurs sont complètement reset, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a beaucoup beaucoup de monde et de résistance au-dessus du pif du côté de Bitcoin, ça prendra du temps. On avait clôturé gras dans le rouge la semaine dernière pour les Treasury Company, les minières Coinbase à 160 $ qui repèrent la 200. On va voir donc sur cette problématique de Clarity Act et de manque à gagner quelque part pour Coinbase qui pourra pas proposer en l'état le fameux revenu sur les stablecoins, un peu comme un compte courant rémunéré, mais sauf qu'il serait très très bien rémunéré. Et bien voilà, c'est un énorme caillou dans leurs chaussures à court terme. Ethereum 2046, tant qu'on est sous les 2050, voire les 2400-2500, et bien on peinera malheureusement à repasser la tête hors de l'eau. Ceci étant dit, les oscillateurs nous annoncent une autre musique que Ethereum et ses deux bottoms, exactement comme du côté de Bitcoin. Donc c'est là où les oscillateurs nous donnent peut-être une musique un peu positive à court terme, mais qui, j'espère, ne sera pas puni par les États-Unis. Total Energy qui continue sa course effrénée, 80 € quasiment. Ceci étant dit, on est extrêmement haut en hebdomadaire, c'est pareil en mensuel. Le MACD est en pleine accélération encore. On a peut-être encore un petit peu de jus, mais ça finira par retrouver la gravité et il la retrouvera au moment où on aura du mieux du côté de l'Iran, bien entendu. Du côté des altcoins, on a Ondo, donc on avait vu en fin de semaine dernière du côté des Real World Assets qui est un peu le sujet du moment pour 2026 et plus, qui est la tokenisation de biens tangibles, donc à voir ce que ça pourrait donner. Et pour le Japon, on continue donc d'avoir des taux qui explosent, les taux longs. Le JPY 20 ans est à 3,30 et le 30 ans autour de 3,80, et il n'a pas l'air de vouloir là aussi s'arrêter en cours de route. Donc ça, que ça soit du côté des États-Unis ou du côté de l'Asie, c'est assez problématique à court terme, puisqu'on a toujours ce monde qui est crispé. On a une Chine aussi qui a essayé de faire en sorte sorte que sa population reconsomme, que tout ça reparte, mais malgré tout, ça n'a pas l'air de totalement porter ses fruits, en tout cas d'un point de vue du consommateur. Les entreprises en bénéficient un peu, mais tant que le consommateur repart pas à fond les ballons et que la confiance des ménages n'est pas là, eh bien malheureusement, c'est un peu problématique. Et en termes de clôture, je voulais vous rappeler premièrement que ce soir, 17h, sort le grand format numéro 2 autour de l'immobilier, les boomers, la Gen Z, les millennials. On essaie de répondre à tout ça de manière factuelle. Et derrière, encore arriveront d'autres épisodes, notamment sur l'aspect des retraites, etc. Donc on a vraiment prévu du lourd pour le coup. Je vous invite bien entendu à la fois à regarder cette vidéo, à la commenter, à mettre un pouce. Je le demande pas dans les quotidiennes, parce que les quotidiennes, vous les regardez pas, tout le monde fait sa vie. Mais là, pour le coup, pour les grands formats, c'est quelque chose qui nous demande énormément de temps, énormément d'investissement, et notamment financier. Donc un peu comme une production, on a besoin d'être dans les clous de tout ça, et donc on compte sur vous. Et qui plus est, c'est un format familial que vous pouvez regarder, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Essayez de débattre entre vous et venez en débattre en commentaire, ce qui nous permettra là aussi d'avoir un échange construit avec l'ensemble de la communauté. Et je clôturerai l'émission de ce jour sur le film Project Hail Mary, donc Projet Dernière Chance en français, qui est en train d'exploser toutes les statistiques du côté du cinéma, mais surtout pour ceux qui l'ont déjà vu, 99% des gens vous diront que c'est un bon film. Alors vous allez me dire, oui, mais quand le consensus pour le cinéma et tout est unanime, souvent c'est des films pourris. Les notes parlent pour elles-mêmes, puisqu'on est, selon les plateformes, en entre 8.6 à 9.6, avec une belle bande originale, avec une idée qui est extraordinaire pour le coup. Je m'attendais à rien en me disant, ok, un énième film dans l'espace, un seul sur Mars, un Interstellar, enfin voilà. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On est à 96 sur Rotten Tomatoes, 77 sur Metacritic, 8.6 sur IMDb, et surtout, sur cette deuxième semaine donc de production et de présentation au public, ils ont atteint ce week-end 300 millions de revenus. Le film a coûté approximativement 190 millions et derrière ils ont eu une baisse sur la deuxième semaine qui était que de moins de 30%, alors que les plus gros films qui ont eu les meilleurs départs, qui ont généré le plus d'argent et tout ça ces dernières années, étaient sur un moins 50% de fréquentation sur la deuxième semaine. Donc un succès extraordinaire que je ne peux que vous conseiller là pour le coup, pour une fois que je peux faire un non-conseil en investissement qui n'est pas sur de l'investissement, et bien c'est avec plaisir que je le fais. C'est un film qui est profondément humain, de très belles images, notamment si vous pouvez le voir en IMAX. Et derrière, vous allez voir que, eh bien, on peut avoir une relation avec autre chose qu'avec un humain ou avec, justement, sans trop vous spoiler, un animal. Et c'est très, des passages avec un petit peu d'émotion et très, très bien écrit, très bien construit. L'acteur principal, Gosling, donc, qui, comme d'habitude, porte le film et qui est très bon avec une touche d'humour qui est assez constante et tout ça. Donc voilà, pour ceux qui l'ont vu, plutôt que de parler toujours de chiffres, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo du jour si vous avez apprécié ce film, et je compte sur vous ce soir 17h, vous lancez ça, même si vous êtes en train de faire à manger à côté, même si vous vous occupez des gosses, vous le lancez, vous le laissez dans un coin, vous le regardez plusieurs fois et vous le faites passer à votre famille. Je vous remercie d'avance et je vous dis au cours de la semaine pour débriefer un petit peu ce qui sera passé dans cette actualité qui en ce moment est quand même pas mal tourmenté, donc ça fait plaisir d'avoir un peu une oasis comme ça de 2h30, 2h40, où on pense à autre chose, où on pense à quelque chose de bien plus positif. Et surtout, le fond du message, toujours sans spoiler, de ce film que l'on pourra retenir, c'est qu'on peut avoir au cours de sa vie, même quand on semble complètement perdu au milieu du néant, besoin de quelque chose auquel se raccrocher, d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Et on peut constater que à l'image de l'humanité, notamment quand elle est un peu au pied du mur, eh bien on a tendance à retrouver ce sentiment bien plus humain plutôt que de vouloir systématiquement se faire la guerre comme on peut le voir dans les actualités aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouve au cours de cette semaine, mais surtout ce soir 17h, comme vous l'aurez compris. Ciao, ciao.